France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives. 95, l'esprit de décembre. Épisode 1, le brasero, zéro. Pourquoi se déclare un incendie? Est-ce à cause du climat trop sec, du sous-bois mal entretenu? Ou bien n'y a-t-il qu'un seul coupable qui serait la foudre? En novembre-décembre 1995, il y a eu un incendie en France. Comme tous les incendies, il a effrayé et il a fasciné. Il a attiré et il a bouleversé. Il a d'abord semblé immaîtrisable dans l'espace comme dans le temps. Et puis, après plusieurs semaines, il a fini par s'éteindre, ou du moins en apparence. En apparence parce que après 1995, il y a eu 1997 et la victoire inattendue de la gauche plurielle. En 2002, Jean-Marie Le Pen est arrivé au second tour de l'élection présidentielle de manière tout aussi inattendue.
En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix.
En 2005, il y a eu le non au référendum sur l'Union européenne, alors qu'on ne l'attendait pas. Et depuis, chaque projet de réforme des retraites conduit à un embrasement du pays. En quoi tous ces événements peuvent-ils être lus comme des répliques de 1995, comme des feux nouveaux, partis des cendres toujours rouges du mouvement de novembre-décembre? Et aujourd'hui, sommes-nous encore, 30 ans plus tard, dans cette séquence de 1995? Durant cette série en 6 épisodes, nous allons tenter de décrire les causes de l'incendie, de dire pourquoi et depuis quand le climat s'était asséché en France. Nous nous demanderons si le sous-bois économique et social était assez entretenu et nous allons voir à présent à quel endroit est tombé l'éclair, où est tombée la première foudre.
Bonjour, ma femme et moi on veut partir au soleil, mais elle aime la plage et moi je suis fou de sport et de montagne.
J'ai ce qu'il vous faut, la Réunion, l'île intense. Pour elle, baignade dans l'océan Indien, divin. Pour vous, voile, surf ou pêche au gros, la passion. Pour elle, farniente à l'ombre d'une case créole, le charme. Pour vous, randonnée dans les cirques, rafting, l'aventure. Et pour vous deux, la chaleur de l'accueil réunionnais.
Vendu, on y va.
Tout est bien, dirait Candide, dans cette publicité diffusée le vendredi 13 octobre 1995, où monsieur ira faire du sport tandis que madame restera bronzée près d'une case lors des vacances à La Réunion. Aucun cliché n'est donc à craindre. Nous sommes donc un vendredi, veille de week-end. Le présentateur du téléphone sonne sur France Inter, Alain Bédoué, semble attendre le moment de la quille. Il faut dire qu'il présente cette émission depuis 11 ans déjà et il a le droit, comme tout le monde, d'aspirer à son week-end. Pour sa dernière émission de la semaine, il a programmé un sujet sur la rentrée universitaire. Rien de bien méchant a priori, seulement un marronnier comme on dit. La rentrée universitaire, c'est toujours un peu pareil. Il y a des étudiants qui râlent, il y a des profs qui râlent. Et puis il y a Alain Bédoué qui les prend au téléphone.
45, 24, 7000.
Voilà, c'est vous qui ouvrez le feu ou le banc, je ne sais pas comment je dois dire. Bonsoir en tout cas, bienvenue sur France Inter, nous vous écoutons.
Bonsoir. Je m'appelle Pascal Hébert, je suis représentant étudiant à la Faculté des sciences de l'Université de Rouen. Ma question est très simple et très grave à la fois. Elle est la suivante. Comment l'État peut se désengager à ce point de l'université, puisqu'il reconnaît par exemple pour l'Université de Rouen un budget nécessaire de fonctionnement de 42 millions de francs et qu'il ne nous accorde que 30 millions de francs?
Alors je vais laisser bien sûr Jean de Boyeux vous répondre en direct, je précise simplement pour tous ceux qui nous écoutent et vraiment en deux mots de quoi il s'agit. On sait que la fac des sciences à l'université de Rouen est en grève depuis le début de la semaine parce que ça avait fermé à cause, encore une fois je résume, faute de crédit et monsieur de Boyeux a d'ailleurs demandé un audit sur ce point.
Bon ben voilà, hein, la fac de sciences elle est fermée. 11 rentrées universitaires qu'il répète la même chose ou à peu près Alain Bédoué et il en a un peu marre. L'année précédente, c'était Nanterre et l'engorgement des amphis. 2 ans plus tôt, c'était Nantes et Toulouse sur les conditions de vie des étudiants. En 1992, c'était un peu partout que les lycéens et les étudiants s'étaient mobilisés contre la réforme universitaire portée par le ministre de l'Éducation, à l'époque Lionel Jospin. Alors bon, rien de bien excitant dans la vie d'un journaliste qui en a vu d'autres. Des éclairs qui tombent sur des arbres, en vérité, il y en a tout le temps.
Bonsoir, Annie de Nevers.
Oui.
Ma question, la voici. Est-il normal que pratiquement, si on veut avoir une chance d'être reçu au concours de première année de médecine, il faille s'inscrire dans un cours privé ? Deuxièmement, l'efficacité de ces cours étant proportionnelle à leurs tarifs, les meilleurs et les plus chers sont ceux dans lesquels officient les enseignants de faculté, c'est-à-dire ceux-là même qui choisissent les sujets et corrigent les copies. Toutes les magouilles sont donc possibles. Il y a eu d'ailleurs une grève d'étudiants à Toulouse après les partiels de février en 95.
Faut-il deviner que vous êtes...
C'est donc normal, je termine, que les médecins de demain soient non pas les meilleurs étudiants, mais ceux dont les parents étaient capables de payer et n'avaient pas de problème de conscience.
Alors madame, pendant que vous lisiez votre question, je me permettais gentiment de vous demander s'il fallait comprendre que vous étiez la maman d'un étudiant en médecine, c'est cela ?
Exactement.
Dans la voix de cette mère d'un étudiant en médecine, on entend une colère sourde qui laisse à penser que le marronnier en feu n'est pas tout à fait prêt d'être éteint. On risque de parler du sujet de la rentrée pendant encore un petit moment. À Rouen, en effet, les étudiants et les enseignants grévistes réclament une rallonge de 12 millions de francs et bloquent l'université. Ils dorment dans les locaux de la présidence, fabriquent dans les couloirs des banderoles qui disent « Juppé, du blé pour étudier » et manifestent en descendant dans le centre de la ville. Une dizaine de jours après le début de ce conflit, un autre marronnier prend feu. Il faut dire au passage que cette espèce de bois tendre s'enflamme rapidement, et ce, même s'il n'est pas totalement sec. Tous les gens qui ont une cheminée vous le diront. Cette fois, la foudre est tombée dans le sud de la France et ce sont les étudiants de Toulouse qui, à leur tour, se sont mis en grève.
Et puis la grogne, toujours, maintenant du côté étudiant. Ceux de la fac de sciences de Rouen ont manifesté hier dans les rues de leur ville pour réclamer une rallonge budgétaire. Ils sont toujours en grève. Leurs collègues de Toulouse sont eux aussi en colère. Frédéric Bourgade.
Des cours surchargés, des cours qui n'ont pas lieu faute de professeurs, des professeurs en grève un jour par semaine depuis un mois, c'est la douche froide à laquelle sont soumis les étudiants en DEUG scientifique à l'université Paul Sabatier, principalement ceux de mathématiques, informatique, gestion. Ils sont 8000 pour 225 professeurs qui croulent sous les heures supplémentaires et revendiquent des créations d'emplois.
Voilà, l'incendie est parti et on ne sait pas très bien ce qui va pouvoir l'arrêter.
95, l'esprit de décembre, une série de Mathieu Garrigou-Lagrange, réalisée par Xavier Joly, attaché Lily Corner.
Xavier Vigna, vous êtes professeur d'histoire à l'université Paris-Nanterre et auteur aux éditions de la Découverte d'un livre intitulé « Histoire de la société française 1968-1995 » qui revient justement sur les décennies qui ont précédé ce mouvement social. Un mouvement qui démarre donc en province, à Rouen exactement, même si on a tendance à l'oublier un petit peu.
Oui, alors le mouvement de 95, on le situe toujours du côté des salariés dans la fonction publique. Et dans les entreprises publiques, la SNCF, la RATP, etc. Et en réalité, comme souvent dans ces mouvements sociaux, il est la coalescence de différentes colères qui s'agrègent. Et en effet, à l'automne 95, il y a une série de protestations. Vous avez entendu que le journaliste parle de grogne, ce qui est une manière toujours de ridiculiser un peu ces mouvements. Mais enfin bon, donc il y a de la colère. Et ce qui est intéressant, me semble-t-il, dans ces deux sons que vous avez mis, c'est que la contestation arrive dans les universités de sciences, qui sont réputées beaucoup plus tranquilles et moins contestataires que les universités de lettres ou de sciences sociales, par exemple. Ce qui indique la réalité, la profondeur en réalité de la colère, parce que, en effet, ces étudiants en ces années se retrouvent en nombre dans des universités qui, littéralement, explosent, parce que il y a eu une arrivée massive d'étudiants, on pourra y revenir, et que, comme souvent, l'État rechigne à débloquer des moyens pour faire fonctionner ce système universitaire.
Alors le fait que ce soit donc un mouvement qui n'arrive pas d'abord dans des grandes villes ou dans la capitale de la France, est-ce que c'est important ? Est-ce que ça signifie quelque chose ?
Alors, c'est intéressant parce que ça correspond à des évolutions de fond de la société française. C'est-à-dire que après les années 60, on a multiplié la construction des universités dans toute une série de villes de province qui sont des métropoles, hein, parce que Rouen et Toulouse, ce sont des métropoles régionales. Et alors souvent, ces sites universitaires sont à l'écart du centre-ville. Hein, c'est le cas à Rouen, par exemple, qui est pas à Rouen même, qui est à Mont-Saint-Aignan. Et on y a entassé des étudiants. Et ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement, c'est en particulier le cas de Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Éducation nationale en 1985, qui dessine l'objectif de 80% d'une classe d'âge ayant le niveau baccalauréat. Mécaniquement, cette volonté de favoriser la poursuite des études dans l'enseignement secondaire implique que l'enseignement supérieur va à son tour recevoir un nombre croissant d'étudiants. C'est logique. Sauf que, comme souvent, l'État ne planifie pas cette arrivée massive. Et donc, dans les années 95, le nombre d'étudiants explose et les structures universitaires ne suivent pas. Toute chose égale par ailleurs, c'est la réplique de ce qui s'était passé dans les années 60. On a à peu près la même chose. Dans les années 60, on a une explosion du nombre d'étudiants. Dans les années 90, début des années 90, on a à nouveau cette explosion. La mère qu'on a écoutée tout à l'heure, la mère de l'étudiant en médecine qui proteste face à l'inégalité de supposée ou réelle, peu importe, du concours, à la fin de la première année de médecine, elle est en rage, elle a une colère froide. Et ça signifie, pourquoi c'est intéressant ce son? Parce que précisément, il montre qu'il y a toute une série de promesses, et en particulier, alors pour l'école et l'université, c'est absolument central. La promesse républicaine de l'égalité des chances. Mmh. Quand les étudiants ou leurs familles ont le sentiment que cette promesse d'égalité, d'une manière ou d'une autre, elle est rompue, ça précipite très souvent dans ce pays des mouvements sociaux. Et là, c'est le cas.
Alors que les manifestations étudiantes prennent de l'ampleur, on sent s'élever au sein de la compagnie Air France, cette fois, un certain mécontentement. Voilà que la foudre tombe à présent sur les avions qui ne quittent plus les tarmacs. Rien de commun pourtant, du moins en apparence, entre les revendications des étudiants et celles des stewards et hôtesses d'Air France, sur lesquelles le journaliste d'Inter fait d'ailleurs une petite blague en passant.
70, 80, 50, telles sont les mensurations de la nouvelle grève des hôtesses et des stewards d'Air France et d'Air Inter. Trafic assuré à 70% pour Air Inter, 80% pour Air France. Mouvement de grève de 3 jours suivi grosso modo par 50% du personnel. La réunion prévue cet après-midi entre les syndicats et la direction est reportée à lundi. Une direction qui maintient son projet de réforme du statut des professions de personnel navigant commerciaux, à prendre ou à laisser, déclarait à 13h au micro de France Inter le directeur général adjoint d'Air France, Denis Oliven.
Xavier Vignas, ce qui frappe à l'écoute de ces archives, c'est la diversité des revendications. Les étudiants qui n'ont pas les mêmes revendications à Rouen et à Toulouse, et là, les revendications des stewards et hôtesses d'Air France qui n'ont pas du tout la même vie.
Ils n'ont pas la même vie. Ce sont des salariés, ce sont des personnels à statut, qui travaillent dans des entreprises publiques, bon. Donc deux compagnies, hein, Air Inter, qui fait les vols intérieurs à l'époque, et Air France, et pourtant qui défendent un statut dont ils estiment être les bénéficiaires à juste titre. Ce qui est intéressant, c'est que, le journaliste le disait, la réforme est à prendre ou à laisser. C'est-à-dire que, et souvent dans ce type de situation, c'est l'absence de dialogue social, la brutalité d'un management qui veut imposer des réformes contre l'avis du personnel, qui crée une tension.
Donc là, en l'occurrence, quand la grève se déclenche à Air France, on est avant les annonces du plan Juppé. Donc ça signifie qu'il y a déjà quelque chose qui se passe avant même la cristallisation par l'annonce du plan. Qu'est-ce qui se passe en fait? Elle est comment la France en septembre-octobre 95, c'est-à-dire avant les événements vraiment?
Alors, au tout début. C'est l'exercice est difficile parce que il serait facile et un peu artificiel pour moi de dire on savait ce qui allait se passer. En réalité, évidemment, on ne le sait pas. Mais ce qu'on mesure a posteriori, me semble-t-il, c'est un pays qui est à la fois profondément touché par une crise économique et sociale au long cours qui sape la cohésion sociale, qui détruit toute une série d'activités.
Depuis le choc pétrolier?
Oui, depuis le choc pétrolier, mais il y a des effets cumulatifs. C'est-à-dire que En réalité, on pourrait même dire que c'est antérieur. Il y a toute une série d'activités industrielles qui sont en difficulté, je pense en particulier au charbonnage, à la sidérurgie ou au chantier naval, depuis les années 60 en réalité. Ce qui veut dire, dans un certain nombre de territoires et de bassins, des difficultés, du chômage, une difficulté à s'insérer sur le marché du travail, des exodes de population, etc.
Parce qu'on a oublié un petit peu que c'est le moment de la grande inquiétude du chômage de masse, voilà, en France, qui est vraiment la thématique des années 90.
Alors, on est à ce moment-là à 3 millions de chômeurs. En 93, on passe le cap de 3 millions de chômeurs. Et en 95, le taux de chômage, en moyenne, à l'échelle nationale, il est à 12%. Ce qui est considérable. Mais cette moyenne nationale ne veut pas dire grand-chose. En réalité, pour comprendre la situation de la société française, il faut procéder à des éclairages locaux ou à des éclairages sectoriels. Par exemple, à Marseille, qui sera un des points chauds du mouvement de 95, le taux de chômage à Marseille en 95, il est à 20%, ce qui est absolument colossal. Donc, c'est une ville qui est sinistrée d'un point de vue économique. Bon. Autre région sinistrée, toutes les vieilles régions industrielles. Le Nord-Pas-de-Calais, une partie de la Lorraine, le bassin stéphanois, etc., etc. Et puis, concrètement, ce taux de chômage à 12%, ça veut dire, pour les jeunes, une difficulté à rentrer sur le marché du travail, et les femmes sont plus touchées que les hommes face au chômage.
C'est dans ce contexte de mécontentement en trois dimensions, qui va du nord au sud et jusque dans les airs, qu'Alain Juppé décide de présenter son plan le 15 novembre 1995, un plan qui comprend de larges réformes.
J'en appelle maintenant à tous les Français. Ils savent qu'il faut réformer la sécurité sociale pour assurer son avenir. Ils comprennent que nous lui donnerons, grâce aux réformes que je viens de vous présenter, une chance nouvelle de durer et de progrès. L'addition des corporatismes et des égoïsmes qui existent et qui se manifesteront, je le sais, ne saurait arrêter notre élan. Si le sens des responsabilités, la primauté de l'intérêt général, la volonté de partage et de solidarité l'emportent, nous allons réussir ce qu'on n'a pas osé entreprendre depuis 30 ans.
Marquons ici un arrêt pour détailler un peu ces réformes proposées par Alain Juppé. On se souvient surtout des mesures concernant les retraites, avec l'alignement de la durée de cotisation des fonctionnaires du public sur les employés du privé. Le plan prévoit que la durée de cotisation soit de 40 ans pour tous, au lieu de 37 ans et demi pour les seuls fonctionnaires. Le plan mentionne également la réforme des régimes spéciaux, qui permettent à certaines catégories d'agents de partir à la retraite entre 52 et 57 ans. Mais la volonté de réforme du Premier ministre est plus large que cela, et son plan comporte également un volet sur l'assurance maladie. Alain Juppé souhaite en effet que ce soit le Parlement qui vote chaque année le budget de la Sécurité sociale afin de mieux en contrôler les dépenses. Le plan vise également à limiter les prescriptions de médicaments et fixe l'objectif de ramener à l'équilibre la branche médicale de la Sécu à l'horizon de 7 années, c'est-à-dire en 2002. Pour ce faire, il prévoit de créer la CRDS, un impôt de 0,5% sur tous les revenus, et de soumettre à l'impôt les allocations familiales. Xavier Vignat, quel regard vous portez sur ce plan Juppé tel qu'il a été présenté par le Premier ministre à l'Assemblée le 15 novembre 1995 ?
C'est celui d'un homme convaincu d'avoir raison, vous l'avez noté, dénonce le corporatisme et l'égoïsme, et donc qui disqualifie d'emblée ceux qui contesteront ce plan, qui se présente comme le garant de l'intérêt général, celui qui va sauver la sécurité sociale. Ce qui est intéressant, c'est que face aux difficultés budgétaires que traverse la sécurité sociale, les modalités de réforme que propose Alain Juppé sont assez classiques. En réalité, c'est donc de faire porter l'essentiel de l'effort sur la population, sans interroger les autres leviers qui pourraient favoriser le retour à l'équilibre budgétaire.
Est-ce que vous avez l'impression que la mondialisation est aussi l'une des sources du mécontentement général en France à ce moment-là, en 95 ?
Alors, oui, mais ce n'est pas le nom qu'on lui donne. Dans les années, enfin, deuxième moitié des années 80, début des années 90, le grand débat en France, un des principaux débats politiques porte sur la construction de l'Union européenne. les Français ont été consultés par référendum pour voter ou non le traité de Maastricht en 1992 qui crée l'Union européenne et qui, en même temps qu'on crée l'Union européenne, ont créé une union économique et monétaire avec, pour créer cette union, des règles budgétaires et financière assez contraignante. C'est la fameuse règle des 3% de déficit budgétaire maximal, la règle de 60% d'endettement public maximal, etc., etc. Et un des éléments qui explique le projet Juppé, c'est que la France doit rester dans ses 3% de déficit et ses 60% d'endettement pour pouvoir faire l'euro. Et c'est là un des éléments que la contestation va mettre au jour.
Pour comprendre les raisons qui ont conduit au mouvement de 1995, il faut revenir aussi sur le contexte politique dans lequel se trouve la France à ce moment-là. En effet, Jacques Chirac vient d'arriver au pouvoir. Il n'est président que depuis 7 mois et il a fait campagne sur le thème de la fracture sociale.
Quoi qu'il arrive, et quel que soit le résultat de l'élection présidentielle, je souhaite qu'il n'y ait pas naturellement d'explosion sociale. Avec la crise économique que nous connaissons, nous n'avons pas besoin de perturbations de ce genre. Mais c'est vrai que la fracture sociale qui s'élargit aujourd'hui, depuis déjà un certain temps, et qui se traduit par un chômage, par de l'exclusion de plus en plus important, c'est de nature à inquiéter et ça peut être de nature à exaspérer. En tous les cas, c'est de nature à affaiblir notre pays et ce n'est pas socialement acceptable. La priorité pour la réduction de la fracture sociale est donc indiscutable.
Quelques mois plus tard, Alain Juppé, le meilleur d'entre nous, comme l'appelle Jacques Chirac, a gagné ses arbitrages et c'est sa ligne qui l'a emporté, nous dirons bientôt dans quelles circonstances. Une ligne axée sur la rigueur budgétaire qui semble bien éloignée du slogan qui a permis à la droite de remporter l'élection présidentielle. Et je ne parle pas du slogan « manger des pommes ». Je parle de celui sur la fracture sociale, un slogan qui sonne comme une trahison. On en trouve même des échos dans le film « Nadia et les hippopotames » sur les grèves de 95.
Sécu, les patrons, la droite, Chirac, qui prétendait lutter contre la fracture sociale, tous ces gens-là, ils veulent se la payer, la Sécu. La Sécu, c'est la solidarité entre les travailleurs, les services publics, c'est pareil, ils veulent que les travailleurs soient des esclaves. C'est plus supportable, il faut arrêter, enfin, il faut continuer la grève, quoi.
Xavier Vignat, ce thème de la fracture sociale, les Français ne le retrouvent pas dans les premières mesures du gouvernement Juppé. Ils ne voient pas en quoi la fracture sociale se réduit avec ce plan. Est-ce que vous le comprenez ?
Je comprends la stupéfaction des Français, effectivement. Jacques Chirac dit et fait campagne contre son rival Édouard Balladur, sur une thématique de gauche en réalité. Hein. La réduction de la fracture sociale, le chômage, l'exclusion, tous les termes qu'il a utilisés dans le son que vous avez mis. Et puis, à peine élu, il nomme Alain Juppé Premier ministre, qui est un énarque haut fonctionnaire, qui incarne la rigueur budgétaire, la technocratie, et tout ce discours d'attention aux difficultés économiques, sociales du pays, elles sont évacuées. Et donc, l'émotion de la gréviste qu'on entendait à un moment, là, qui dit les services publics, le chômage, etc., c'est le désir à l'époque de toute une série de Français de conserver ce qui était des barrières, des protections.
Et en même temps, est-ce qu'on ne peut pas considérer, comme semble le faire Jacques Chirac, que préserver le système de retraite, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il soit sécurisé, peut être aussi une façon de ne pas accentuer la fracture sociale, c'est-à-dire de préserver au fond le système par répartition tel que nous le connaissions.
Certes, à condition que les efforts demander pour préserver ce système ne soit pas porté par ceux qui sont les plus fragiles. C'est-à-dire l'augmentation de la franchise médicale, par exemple, ça concerne tout le monde, y compris les plus pauvres. Et donc là, il y a un écart entre la thématique de 95 et le plan Juppé. Et c'est là, ce sont des souvenirs en même temps, parce que moi j'étais jeune enseignant à l'époque, on a le sentiment d'une gigantesque duperie. Et de fait, Juppé, le plan Juppé pour toute une partie de la population est illégitime.
En optant pour le tournant de la rigueur en 1983, François Mitterrand a en quelque sorte choisi le chemin de la mondialisation plutôt que celui d'une certaine autarcie pour la France. Pouvait-il ou aurait-il dû faire autrement ? C'est un débat qui court encore aujourd'hui et qui est sans doute au cœur des questionnements qui secouent notre vie politique. Toujours est-il que les bouleversements induits par ce tournant social-libéral ont provoqué une vague de fermetures d'usines dans le monde occidental et l'apparition en Europe du chômage de masse. Le plan Juppé, qui arrive dans ce contexte de malaise et d'inquiétude, semble à beaucoup de Français comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est en tout cas ce que pense le philosophe et sociologue Jean-Pierre Le Goff dans ce document retrouvé sur les rayonnages de la salle des archives.
Bon, vous avez le problème du plan Juppé qui pour moi était un facteur de catalyseur, si vous voulez. Mais derrière la question du plan Juppé, d'ailleurs, on a, je pense, c'est un mot d'ordre fédérateur, mais quand vous regardez un peu la colère qu'il y avait derrière, le plan Juppé, pour moi, était la goutte qui a fait déborder le vase, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est venu comme un élément, ça suffit de trop, dans une logique. On ne cesse d'appeler les gens à se mobiliser, on ne cesse d'appeler les gens à changer dans leur activité de travail, leur habitude, à remettre en cause, y compris des acquis sociaux, sans qu'on en voit le bout, c'est-à-dire c'est les efforts perpétuellement demandés dans une logique sacrificielle qui ne présente aucune positivité et qui ne peut pas faire sens pour les gens. Donc, à mon avis, le sens profond, c'est le refus d'une logique sacrificielle. Plus précisément, c'est, je dirais, le refus de la rupture d'un lien générationnel qui était marqué antérieurement par l'idée de progrès. Et qui est très lié à l'idée républicaine, depuis l'origine, si vous voulez, de la République, c'est-à-dire qu'une génération lègue à ses propres enfants une situation meilleure que celle qu'elle a connue. Or, historiquement, il apparaît qu'on serait dans une situation où ça est rompu.
Je rejoins en partie ce que dit Jean-Pierre Le Goff, c'est-à-dire que pour les salariés, la crise, c'est le chômage, mais pour ceux qui sont au travail, c'est la nécessité d'une adaptation permanente. Il faut constamment transformer ses habitudes, s'adapter, changer ses modes d'organisation, etc. Et donc, ça crée une insécurité. Et ça fragilise les collectifs. Ça fragilise les collectifs. De fait, ceux et celles qui vont se mobiliser en 95, ce sont les personnels qui sont paradoxalement les moins touchés par cette adaptation continuelle, précisément parce qu'ils sont en mesure de résister. Le deuxième point que je voudrais souligner, et là je rejoins entièrement ce qu'il a dit, c'est l'idée de rupture générationnelle. C'est-à-dire que, en effet, depuis les années 80 et surtout dans les années 90, cette idée d'un progrès dont bénéficieront les générations futures, cette idée-là est rompue. Et ça alimente la colère.
Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que les Français voient le monde en train de changer et que les manifestants de 95 envoient le message « on ne veut pas que ça change » ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec cette façon de présenter les choses ?
Je la trouve simpliste, cette manière de faire, parce que ça présenterait les contestataires comme des espèces de nationalistes attachés à un bon vieux temps. Alors, je pense que c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que ce à quoi ils sont attachés, c'est à conserver un ordre politique et social plus égalitaire. Et quand on dit ça, cet ordre social et politique plus égalitaire, il ne s'agit pas simplement pour toute une partie de la population et des contestataires de le maintenir pour la France, mais il s'agit de l'étendre. Et donc...
Donc c'est au fond une idéologie, un choix de société pour la planète entière.
Alors, pour la planète entière, en tout cas,
à l'époque... Un choix de société philosophique, quoi.
Et surtout pour l'Europe. Parce que, en fait, dans ces années-là, le contre-modèle des manifestants, c'est l'Angleterre, de Thatcher. Voilà, c'est le débat dans la tête des gens en 95, c'est est-ce qu'on a un État social comme on l'a en France ou est-ce qu'on a la société anglaise telle que Thatcher l'a redessinée dans les années 80. Voilà. Et vous voyez, donc c'est pas simplement le bon vieux temps de la France, c'est quel ordre on veut pour en Europe et au-delà pour le monde.
C'est donc à Rouen que le feu a pris en cette année 95, mais qui s'en souvient ? Qui s'en souvient étant donné l'ampleur des manifestations qui vont avoir lieu partout en France durant ces deux mois ? Et pourtant, il s'est peut-être bien passé quelque chose de spécifique dans ce coin-là de Normandie, car c'est aussi à Rouen que le mouvement des cheminots va prendre en ce mois de novembre 1995. Au niveau exactement du kilomètre 135, sur la ligne de chemin de fer qui relie Paris au Havre. Pourquoi à cet endroit-là ? On en parle dans l'épisode qui suit.